Marseille, pour moi, c'est un peu mon pays, puisque je suis méditerranéen, je suis mi-provençal, mi-monégasque, mi-génois, tout ce que vous voulez. J'ai connu beaucoup de Marseillais, j'aime beaucoup cet accent. Et on dit beaucoup de mal de Marseille, ça m'énerve. Et c'est surtout aussi le théâtre Tourski, qui n'a rien de marseillais comme nous. Le poète Tourski, dont on a pris son nom pour faire un théâtre. Et c'est mon ami Richard Martin qui a ce théâtre, à qui je donne un coup de main depuis 20 ans, quoi. J'y vais de temps en temps chanter, et ça a marché comme ça. Et c'est un garçon vraiment qui est un homme de théâtre formidable, qui travaille comme un damné, quoi. Quand j'y vais, je suis chez moi un peu. J'y vais dans un hôtel qui s'appelle la Résidence du Vieux-Port, qui est un hôtel qui donne sur le Vieux-Port. On voit la Notre-Dame de ma chambre. Et alors là, c'est beau, on voit le port, ouais, c'est formidable. C'est bébête un peu. Le sentiment bébête qu'on a quand on parle d'une ville qu'on aime, mais c'est un beau sentiment. Et pour le port, ça a quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est jamais fini comme un port. Un port, il y a toujours la place. Toujours un emplacement pour un navire, un bateau. Et on est toujours prêt à embarquer quelque part, à s'en aller, quoi. Maintenant, avec le sentiment plus relatif, non, puisque il y a l'avion qui a bouffé tout ça. Mais le port, la ville du port, le port, ça n'a jamais été. Si vous allez sur un aéroport, c'est horrible à regarder, tandis qu'un port, c'est beau. Et Marseille, alors, c'est un port fantastique. Fantastique. C'est très beau. Très beau. Et à Marseille, on sort dans la rue, comme ça, on se balade, on est chez soi partout. Ça me revivifie dans mes ascendances. Quand le monde anglo-saxon, je ne peux pas le supporter. Et moi, je suis un latin, puis il n'y a rien à faire. Et les latins sont plus intelligents que les anglo-saxons, à mon avis. Ils ont, en tout cas, s'ils ne sont pas plus intelligents, ils sont plus sensibles. Ils ont le cœur sur la table, partout, dans leur assiette, quand ils mangent, dans leur lit, quand ils dorment, dans leur lit, quand ils font l'amour. Les latins, c'est les princes de la vie, simple et magique. Les anglo-saxons, oh, ça finit à la mère Thatcher. Après avoir commencé à Shakespeare, bien sûr. Le droit de vote, ça ne me regarde pas. J'en parle dans une chanson que j'ai écrite et qui s'appelle La Grève. Je dis, mais faut jamais, même en rêve, faut jamais faire la grève. Et à la fin, ça finit comme ça. Quand t'auras le temps, t'iras voter en montrant tes papiers de souverain pour envoyer ton député faire les conneries que tu ferais bien. Mais si par hasard... Ah ouais, si par hasard on te fait savoir que le pain, le boulot, la liberté se sont fait faire sur le trottoir comme une gonzesse, même en rêve, tu pourras peut-être faire la grève. Voilà. Il faudrait peut-être que tous les gens, quand ils sont pas contents, qu'il y a des choses incroyables qui se passent, que tous les gens puissent descendre dans la rue, les bras croisés. Vous savez, 52 millions de personnes en France avec les bras croisés dans la rue qui marchent. Alors, quel est le pouvoir qui peut faire quelque chose contre ça? Lequel? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le pouvoir, c'est la réaction normale et anormale du flic sur l'ordre d'un général ou d'un président de la République. Le pouvoir, ça ne peut rien contre les gens qui sont là, qui vous regardent dans les yeux. C'est plus fort qu'un fusil, les yeux. Voilà. Si vous pouvez dire aux gens, ce soir vous descendez dans la rue, tous, 52 millions de personnes en France qui descendent dans la rue, mais il n'y a plus de socialisme, il n'y a plus de droite, il n'y a plus rien du tout. Ils peuvent tous aller faire cuire un œuf, quoi. Je vais être simple, direct. Ma mère et moi étions gaullistes. Sous l'occupation. Mais on aurait été, lui, iste. N'importe qui, iste. Moi, j'avais jamais vu le général, quoi. Parce qu'on savait qu'il était contre les Allemands, n'est-ce pas? Et un jour, les Allemands sont rentrés en Russie. C'était avec une puissance énorme et tout ça. Ils sont rentrés en Russie, on l'a su à la radio. Et j'étais à table avec mon père et ma mère. à la maison, dans la cuisine, on mangeait dans la cuisine. Et je dis à mon père, dis papa, les Allemands sont rentrés en Russie. Il dit oui. Et je lui dis, on a gagné la guerre. Il s'est levé, il est allé dans le couloir, sur une petite table, il y avait une photo de moi en soldat, dans un petit machin en verre, il l'a jeté par terre. Tac, comme ça. Parce que mon père, il n'était pas pour les Allemands, il était pour Pétain, quoi, comme beaucoup de Français. Et ma mère et moi étions gaullistes. Et ma mère, à son moment, me dit, Léo, tiens-toi tranquille, ne dis rien, cette nuit, il va se lever pour ramasser les bouts de verre. C'est ce qui s'est passé. Ça m'avait frappé, ça. Alors, De Gaulle, pour moi, c'était une image, quoi. Et puis après, je l'ai vu. Et physiquement, il ne me convenait pas du tout. Il avait un physique qui était un peu outrancier, un peu... Oh là là, là. J'avais fait une chanson à la Martinique en 47, que j'appelais Mon Général. Quand je suis rentré chanter en 48, à Saint-Germain-des-Prés, je chantais cette chanson tous les soirs. Et les gaullistes venaient y rier, ça leur plaisait, parce que je l'insultais pas, hein, bon. Il n'y en a qu'un qui n'était pas content. Il était avec des gens qui riaient, et lui, il n'était pas content. Il râlait, il est venu deux ou trois fois. C'était le fils de Mauriac, qui s'appelle Claude Mauriac. Celui-là, c'est quelqu'un, je te le dis, moi. Hein. Si vous voyez Claude Mauriac, laissez tomber.
Rimbaud et Verlaine, en même temps, les uns, l'un et l'autre. Je faisais un Rimbaud, je faisais un Verlaine. J'ai mis plus de Verlaine que de Rimbaud. Je pensais à eux tout le temps, sans savoir ce qu'il fallait penser vraiment, quoi. Et j'avais tort, on n'a pas le droit de penser à la vie des gens quand on n'a pas vécu cette vie, quand on n'a pas vécu avec eux. Il y a des tas d'écrivains qui parlent, on a écrit des tas de livres sur eux, surtout sur Rimbaud. Ah oui, c'était un personnage fantastique, hein. Fantastique. Rimbaud. Il devait être violent, il devait être mal poli, je trouve, je crois. Dans la rue, il devait marcher comme un chef, quoi. Comme un chef des tribus slaves. Et il était plus fort que Verlaine dans la vie, bien sûr. Avec cette faiblesse et des gens de génie qui fait qu'un jour, ils changent de ton et ils deviennent sentimentaux au maximum. Et là, c'est le cas de Verlaine et Rimbaud qui se sont aimés, quoi. Verlaine est un type qui marchait, il boitait un peu, il avait un bâton. Je dis toujours que... Lorsque, d'ailleurs, dans Variété, Paul Valéry raconte qu'il voyait monter Verlaine, Loulois Saint-Michel, quand il est à son bistrot pour prendre l'absinthe. Et ça, j'ai été fâché. Je l'avais dit à Breton, d'ailleurs. J'étais fâché que Valéry n'ait pas pris la peine d'amour et d'amitié de traverser la rue. Il ne devait pas y avoir beaucoup de bagnoles à ce moment-là, quand même, pour aller saluer Verlaine. Il s'est jamais dérangé. Valéry, c'était un mathématicien du verbe, quoi. Hein? C'est ça. Le premier verbe lui était donné, et les autres lui étaient... Il est travaillé, quoi. Ça, c'est pas possible. Ce sont des poètes qu'on peut comparer, quoi. Pour moi, Valéry, c'est pas un poète. Tandis que Rimbaud et Verlaine, alors, c'est fantastique. Verlaine devait être très, très délicat, très gentil, mais quand il voulait quelque chose, il devait l'avoir, hein. Il n'a pas été très gentil avec sa femme. Il l'a quitté pour aller avec Rimbaud, quoi. Il devait être gentil quand même, sûrement. Moi, je n'aurais pas pu l'apprécier, le supporter, parce que il était laid, quoi. C'est ça que je comprends pas chez Rimbaud, d'avoir pu aimer un homme comme ça. D'avoir pu l'aimer physiquement. Je comprends pas ça. Alors, il aimait ce qu'il écrivait, quoi, je sais pas, je suppose, quoi. Alors Rimbaud, c'était pas un type de notre temps, de notre siècle et de notre planète, quoi. C'est possible. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte. Oui. Ça, c'est quand même... Bon, je trouve que c'est de la littérature, ouais. Littérature de Verlaine. Et ça, c'est pas d'un doute les plumes, n'est-ce pas? Oui, belle littérature, mais littérature quand même. Quant à Verlaine qui voit, il a pris, je sais pas, ça n'a rien à voir avec l'inspiration de quoi que ce soit, je pense. L'alcool, c'est parce qu'on commence à boire, puis ça plaît, puis on continue, puis on exagère, et puis on peut plus s'arrêter, quoi, je crois. Je m'arrête pas aux gens, à ces choses-là. Les gens font des choses, font des conneries, mais quand ils font les conneries, ils les assument. Maintenant, je peux me tromper. Ah, ça aussi. Qui sait? S'il n'avait pas bu, il aurait peut-être pas écrit. C'est pas moi qui peux le dire, ça. Je crois pas que l'alcool, comme ce que vous devez penser, c'est un remède pour ne plus voir les autres et renforcer sa propre solitude. Je crois pas, non. Non, non. Le type qui boit aime bien être avec quelqu'un à qui parler. Seulement, les gens qui ne boivent pas ne vont pas avec lui, ne veulent pas lui parler, parce que c'est d'abord inappréciable et puis c'est insoutenable. Chanter en scène, souvent, et à la fin du tour de chant, et les gens sont un peu surpris de ce morceau-là. Qui est-ce qui chante des choses comme ça dans un musical, quoi? Parce que je suis un artiste de musical, entre guillemets, quoi. Ça m'emmerde quand on dit ça, parce que le musical, c'est terminé, quoi. Le musical, avant, il y avait tout ce qui se faisait partie du musical, quoi. Tandis que maintenant, alors, musical. Maintenant, on dit concert. Johnny Hallyday dans son concert. Tu parles. Johnny Hallyday qui donne un concert. Moi, je chante tranquillement. Je savais qu'il y avait un acteur de théâtre qui avait dit le texte. Toujours un disque de ça, d'ailleurs. Gérard Philippe, quoi. Je me suis dit, bon, là, il y a du talent, il dit le texte. Si maintenant quelqu'un, il y a de la musique, il chante un peu, ça sera différent, quoi. Et quand j'ai chanté ça, j'ai eu beaucoup de peine, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre. C'est terrible. Maintenant, je le sais très bien. Je le sais toujours. Quand je vais promener le chien, vous savez que j'ai promené le chien tous les jours. Je le récite souvent dans la campagne. Sans le bateau et sans l'ivresse. Avec la mémoire fidèle. Que le bateau soit ivre, ça me plaît bien. S'il avait dit le bateau sous, le bateau noir, non. Hein? Le bateau ivre, c'est très bien, ça. C'est formidable. Il y a 100 ans, en 91, en novembre, ça fera 100 ans qu'il est mort. L'année prochaine, c'est le centenaire de Rimbaud. Ah oui. Alors je pense qu'on me demandera d'aller me restaurer devant lui, quoi. Qu'il s'était coupé l'oreille et qu'il avait donné une putain là-bas. Hein? C'est tout. On peut pas être plus bête que je n'étais à ce moment-là. Et puis je me disais, la peinture, oh, quand on me parlait de la peinture, je disais, la peinture, à quoi ça sert maintenant? Maintenant, il y a les photos en couleur, alors ça va, ça remplace la peinture. Bon. On peut pas être plus bête que ça. Et en 1947, non, oui, c'est à peu près, quoi. Il y avait une exposition Van Gogh à Paris, au Louvre. Et j'étais avec une femme, là, qui m'a amené là parce qu'elle voulait voir ça, elle voulait voir grand Van Gogh. Alors je suis allé, par gentillesse pour l'accompagner, je suis rentré dans cette salle. Et il y avait immédiatement des tableaux. Il n'y avait pas des couloirs pour arriver à ci, à ça, non, non. Immédiatement des tableaux. Je suis rentré, je me suis mis à sangloter tout fort. Alors, j'ai découvert, c'était extraordinaire. J'ai vu les corbeaux avec dans le blé, dans la plaine. J'ai sangloté, quoi. Mais fort, fort. Les gens m'ont regardé, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Voilà comment j'ai connu Van Gogh. Et j'ai dit, l'oreille de ce mec qui ne t'écoute plus. Eh oui. Ces corbeaux dans le blé d'une toile perdue. C'est ça que j'avais noté qui m'avait fait pleurer. Et puis, je dis, je ne m'arrête plus quand je vois la folie, je fais ses commissions et couche dans son lit. Alors, ça me déplaisait pas de coucher dans le lit de la folie, hein. Surtout quand c'est la folie qui a rapport à Van Gogh. Et puis, les larmes de cet arbre inquiet dans la forêt. Alors ça m'a toujours touché, ça. Les larmes d'un arbre qui est inquiet dans la forêt, c'est-à-dire un arbre qui pense, car je suis certain que les arbres pensent. C'est certain, ça. Hein. Et alors, je dis comme ça, tout de suite après, la chaise de Vincent, de quel bois elle était. Ah! Et alors là, ça m'a convaincu que j'étais dans le bon sens et qu'il fallait que je finisse, que je fasse cette chanson. Quoi. Qui n'est pas une chanson d'ailleurs, c'est un texte raconté comme ça. C'est à ce moment-là, à la fin, que je dis que je perds la folie, que je reste seul avec mes yeux de fou. Et bien c'est ça. Le problème, le fou c'était moi. C'était pas Van Gogh. La folie, pour moi, c'est la sagesse. C'est sûr. Même dans ce que ça a de plus bizarre, déséquilibré. Quand je suis déséquilibré, je suis sage. Et je suis fou à la fois. Parce que je regarde la folie, je la salue, je la prends dans mes bras et je m'en vais très loin, comme ça. Comme lorsque Chaplin partait avec une fille, ça, à la langue, loin, 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 à la fin d'un film. Rudebeuf, pour moi, c'est le premier poète de la langue française parce que ça pourrait vraisemblablement, à quelque chose près, être écrit demain matin. Parce que si vous allez voir les poètes du XIIIe siècle, essayez de les lire, eh bien, un bel bonjour d'Alfred, parce que c'est très difficile, il y a des mots, des verbes et des façons d'écrire qui ne sont plus d'aujourd'hui, et il faut vraisemblablement aller à l'école pour apprendre ça. J'ai lu Rudebeuf, et il a tout un grand poème qui s'appelle « La pauvreté à Rudebeuf ». J'ai pris ça, j'ai réduit, j'ai fait une sorte de texte assez pas tellement long, et j'ai mis de la musique là-dessus en improvisant à la salle d'enregistrement de chez Odéon, et j'ai appelé « Pauvre Rudebeuf » parce qu'il fallait mettre le titre, son nom dans le titre, pour que les gens sachent bien que ce n'était pas moi qui faisais les paroles. J'ai mis « Pauvre » parce qu'il avait écrit « La pauvreté Rudebeuf ». J'ai fait connaître Rudebeuf, et un jour, je suis allé près d'un café pour aller acheter mes cigarettes, etc. Il y avait un gros camion, et j'avais remarqué, parce que c'était incroyable d'avoir un gros camion comme ça dans cette petite place. Je ne sais pas comment il était rentré, d'ailleurs. Et je vois le type qui ouvre la portière du camion, le camionneur, qui me dit « Dis donc, Léo, quand est-ce que tu nous chantes le pauvre bœuf à la télévision ?» C'était donc 2 ans après que j'avais fait le 10, 158 par là, quoi. Et ça m'avait frappé, ça m'avait fait plaisir, et je me suis bien empêché de rectifier. Je me suis dit « Un jour, tu rectifieras toi-même. » Tu sauras que c'est pas un bœuf qui a écrit ça, et c'est que c'est Rudebeuf. L'école, c'est la rue et c'est la volonté de savoir des choses comme ça. L'université, souvent, tu as bien le bonjour d'Alfred. Je travaillais à Radio Monte Carlo. Et alors, un jour, j'entends, on reçoit un disque de Jean-Roger Cossimon, l'acteur de théâtre. Je savais qu'il était acteur, c'était ses débuts. Un disque s'appelait « À la scène ». Où il parle à la scène. Ça m'avait beaucoup plu parce qu'il disait pas du bien de la scène, il engueulait plutôt la scène, n'est-ce pas? Après l'occupation, je suis allé à Paris et un jour j'ai été voir chanter Jean-Roger Cossimon à Montmartre, là-haut. Oui, Jean-Roger chantait au Lapin Agile. Je suis arrivé, je l'ai écouté. Quand il a fini, j'ai été le voir, je lui ai dit, est-ce que monsieur, vous accepteriez que je mette de la musique sur ces paroles que j'ai reçues à Radio Monte Carlo? Il me dit, mais d'accord. C'est comme ça que j'ai connu Jean-Roger Cossimon. Et alors après, on s'est connus, il m'a donné des textes, je les ai mis en musique, et je suis devenu un grand ami à lui. Quand on prononce le mot amitié, ça n'est jamais décevant, parce que c'est le don du cœur de quelqu'un qui vous aime. Voilà. Alors il n'y a pas de problème, quoi qu'il arrive. Et il ne peut rien arriver de définitivement horrible entre ces deux êtres qui s'aiment. L'amitié, c'est l'amour sans arrière-pensée. C'était un homme d'abord. Hein. Et puis, je ne peux pas tellement dire des choses parce qu'on était vraiment amis. C'était un frère pour moi et c'était un grand acteur de théâtre, un grand poète, simple mais formidable. Il est venu ici, à la maison en Italie. Il est venu, et c'est ici qu'il m'a apporté les dernières chansons que j'ai mises en musique de lui pour faire un disque qui s'appelle Cossimon. Un jour, enfin, c'est guère, ça a mis Cossimon dans les poètes d'aujourd'hui, et Dieu sait si c'était tout à fait normal, et il a bien fait de le faire. Et j'étais content pour Jean-Roger. Et on m'a demandé de faire une préface à ce petit livre, qui s'appelle Jean-Roger Cossimon, mon poète d'aujourd'hui. Je vais me permettre de vous lire un petit extrait de cette préface que j'avais écrite, et ça vous donnera une idée un peu de ce qu'était ce monsieur. Né à Bordeaux, cette ville marine, à mi-chemin d'allure entre Rotterdam et Marseille. Bordeaux, ça n'est pas tout à fait le midi. Il y brille un soleil malade, brumeux. Il y souffle un air qui n'est pas de chez nous. Un vent atlantique qui se souvient de l'autre monde, du nouveau, de ce monde dont Cosimon et quelques autres n'ont que faire, empêtrés qu'ils sont sur leur dock et sous leur grue d'Europe. Bordeaux, cette première étape dont il se souviendra à Ostende, l'Ostende nordique, où il réinventera sa mer, son port, son bistrot. Les gens du Midi, un jour ou l'autre, s'en vont flâner là-haut, vers ces paysages froids, gris, insolents dans leur stature de glace d'épinal. On y va, le soleil dans la poche, tel des Romains d'Empire, apprendre cette solitude de la grisaille si poétique et combien propice aux vagabonds de la mélancolie. Quand il est mort, il avait prévu, et c'était bien de lui, ça, mais ça m'avait frappé, ça. Il s'est fait incinérer, et il a demandé, avant d'être incinéré, bien sûr, qu'on disperse ses cendres dans la mer, tout comme Jean Gabin l'avait fait. Quand je dis ça, les gens ne le savent jamais et sont étonnés. Moi aussi, j'ai été étonné de ça. Je me demande si j'arriverai à vouloir une chose comme ça. Je me demande si on a le droit de le faire. On a tous les droits, en définitive. Et il s'est fait oublier dans la mer du côté de Bordeaux, là-bas, Atlantique. À propos de la mer du Nord, oui, on parle un peu de ça, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Nord, mais un peu par sa poésie, mais un peu loin, quoi, parce que je suis pas de là-bas. Et Brel avait fait une chanson, de très belles chansons, sur, à propos d'Amsterdam. Alors un jour, je voulais faire une chanson, moi aussi. Et j'ai fait une chanson sur Rotterdam, en disant, il n'en restait plus qu'un, et c'était celui-là. Alors je l'ai pris pour moi, et j'ai fait cette chanson, en disant tout ce qui se passe un peu dans ces pays-là, et en disant, au fond, ce qui était important, c'est de partir en Italie. C'est loin de Rotterdam, et c'est pas mal. Je vis en Italie, en Toscane, mais bien que les gens pensent que j'ai choisi, on ne choisit pas la ville où on va. Et moi, je suis seul, je ne sors pratiquement pas d'ici, je vais promener le chien tous les jours, c'est tout ce que je fais. Alors, bon, je préfère vivre ici parce que c'est une ville à la fois religieuse, ce qui me déplaît, et grivoise, ce qui me plaît aussi. Mais la grivoiserie, c'est moi qui l'invente, quand je regarde les gens. Alors, et puis ici, il y a Christy. C'est fantastique, quelle femme. Et c'est vrai, elle a un cœur extraordinaire. Je ne l'ai pas vue faire quelque chose de moche, comme on dit, à quelqu'un. Je l'ai connue parce qu'elle travaillait dans ma maison, dans le Lot, parce que il fallait qu'elle gagne un peu de fric, etc. Quand on parle de ces gens-là, moi je trouve que les gens sont racistes, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas supporter les Noirs, les Chinois, hein, et les gens de maison, comme on dit, hein. Je me suis vengé parce que je suis, dans la mesure où j'ai pu le faire et quand elle l'accepte, je suis devenu la bonne de ma femme. Voilà. Et c'est très facile de dire ma bonne, mais elle est extraordinaire. C'est la bonne d'elle-même, quoi, la bonne de ses enfants. Elle est bonne, on a tous connu, quoi. Ma mère, c'était une bonne. Ma sœur, c'est une bonne. Moi, je suis une bonne. Et alors, remuez-vous, quoi, quand on voit tous ces gens qui font des bruits avec leurs souliers en arrivant, comme ça, mademoiselle, voulez-vous m'apporter du café? Moi, je t'y foutrais des trucs dans la gueule à ce gens qui me demandent du café, quoi, avec un ton pareil, quoi. Alors, Christy, c'est sa mère qui l'appelle, quand elle s'appelle Christine, et sa mère l'appelle Christy, et moi, je l'appelle Christy aussi, j'ai fait une chanson sur elle, quoi. Alors un jour elle a fait un enfant, c'est Mathieu, et puis 4 ans après elle a fait une petite fille, c'est Marie-Cécile, et puis moi je voulais plus parce que j'ai dit, oh ben ça va, ça fait deux, ça fait, et puis un jour elle m'a eu comme ça, elle m'a joué une comédie, je me suis laissé avoir, j'ai fait un troisième. Difficile de vous donner le détail de la chose, mais ça existe. Quand je lui parle de ça, elle se met à rire un peu sous le manteau, n'est-ce pas? Et la troisième, c'est Manuela. Mais je ne sais pas, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce qu'un jour, avant de trouver un Italien, on va se marier. Ça m'ennuie, ça. Je ne sais pas pourquoi. Et je n'ai pas le droit de m'occuper de ces choses-là, évidemment, quoi. Mais on est comme tous, quoi. On est comme tous les autres, quoi. Je me trouve des fois très con, quoi. Quand j'ai affaire à des gens en dehors de moi, quoi. Dans le jugement que je peux avoir sur les gens. Je n'ai aucune autorité. Et alors je paye cher parce qu'on a l'autorité sur moi, quoi. Et l'art d'être père, c'est obéir à ses enfants. Il est difficile de parler de l'amour qu'on a pour une femme et inversement que la femme a pour l'homme. Parce que l'amour se transforme toujours en tendresse. Et la tendresse, c'est autre chose que l'amour. La tendresse, c'est... Oui, c'est dormir ensemble dans le lit sans se toucher, quoi. Hein? Ça arrive, quoi. Il faudrait pas dormir dans le même lit. Il faudrait se retrouver des fois, quoi. Mais ça, c'est difficile à apprendre aux gens, ça. On va pas apprendre ça. Marie est une femme merveilleuse. Oh, je n'ai jamais rencontré de fille aussi claire dans la tête, dans le cœur et dans son ventre. Salut, Marie. Il y a un rapport très précis, en ce qui me concerne, en tout cas, entre l'acte d'amour et la mère. Et ça remonte, il y a longtemps, j'étais tout jeune, j'avais 4-5 ans peut-être, 3. J'étais avec ma mère au bord de mer. Et à un moment donné, elle était avec une amie, et son amie s'était mis en maillot, elle avait sa culotte de côté comme ça. Et tout d'un coup, j'ai pris la culotte, et j'ai senti la culotte. Et j'ai dit à ma mère, « Maman, ça sent la mer. » Et ça m'avait frappé, ça, terrible. Et tout vient de là. Difficile après de dire, de continuer à dire comment ça s'est développé, petit à petit, et j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait... comment dire, avoir le sexe de son amour, parce que le sexe m'ennuie de dire ça, quoi. C'est comme ça, les mots, il faut bien les employer pour que les gens comprennent. Au fond de ma bouche, dans ma bouche, quoi. C'est ça. Parce que comme ça, je sens d'où vient la femme, et c'est pour ça que je dis que la femme vient de la mère. Et c'est vrai. Elle est plus forte que nous parce que elle est à l'origine, quoi. C'est sûr. Elle est à l'origine puisqu'elle donne la vie. Et l'homme est qu'un passant. Des fois sublime et trop souvent dérisoire. Je vais me permettre de vous lire quelques extraits d'un livre que j'ai écrit il y a des années, il y a 20 ans, avec des dessins magiques d'un camarade à moi. Il faisait les dessins, moi j'écrivais le texte. Alors je lui donnais le texte, il faisait les dessins. Je lui donnais le texte, il faisait les dessins. C'est comme ça que j'ai écrit Alma Matrix. Vous savez qu'il y a Alma Mater, c'est-à-dire la mère nourricière, mais pour moi, Alma Matrix, c'est la matrice nourricière. J'ai dit à la matrice qui m'enivre, à mon amour qui tremble, à la mort qui jouit. La femme vient de la mer. C'est salé, c'est poivré, c'est doux, c'est huileux. C'est huilé, c'est noisette. C'est le bac où je bac, c'est la vie au sec, là-haut, dans la tête, et vernissée jusqu'au profond des portes entrebâillées, en coignure de passe et de rejets de blancheur toute grise que je gobe, que tu happes, que tu gruges, que tu traies comme d'une mamelle jamais tarie. Oh, les beaux Robert de la matrice, Alma matrice, je suis le maître des linges noirs laissés pour compte dans les canalisations des mémoires de passe. C'est salé comme ces moutons de la rue, la morve aux derches, et ces cris donc de la paillasse en crêpe de Chine. Quand cette goutte royale s'attachait à ton bas, en passant tout à coup, tu avais l'air d'une garce publique de 13 ans, à peine pileuse et rouge et gonflée et superbe. Une garce tachée, vibrante, et c'était tout humide, et j'y sentais une mère très ancienne de celle que j'ai toujours rêvée, la mère de ta marque, de ta chance. De cette cicatrice ouverte que retient à peine une suture de gaz, cette gaz de gelée qui a séché. Quand tu es sèche, j'écarte avec mes doigts cette gaz qui crisse. J'écoute alors le chant de ton cul, mon amour, et des anges loups qui descendent de ta tête embrumée vers ce delta où les songes permutent quand les matelots se couchent. fiers du tabac, de l'alcool et de leur belle gorge de vie qui se prépare à ouvrir dans ton ventre, dans tous les ventres. Les matelots, ce sont des malheureux. Il faut qu'ils imaginent. Écoute bien le chant des matelots, ça ruisselle. Les couteaux éjaculent du sang, l'acier se meurt au fond des poches d'un désir de violence, seulement pénétré et grainé longuement jusqu'à la fatigue dernière, celle dont on ne revient plus, tellement le sommeil du métal est fascinant. Et ces aciers trempés du sel, du tien, te blessent, te marquent. Oh, ta marque, sous les culottes démarrées, les culottes voyeuses, à peine s'écartant pour voir par leur propre système de réflexion qui me permet à moi de voir devant. Elles, les culottes, voient dedans, dans l'objet, comme le miroir qui, au fond, ne voit rien et que tu vois en t'y voyant. Alors ils voient le miroir, ils te voient, te voyant. Les culottes voient aussi, tellement qu'elles en ont des larmes brunes, que j'essuie quand je peux, avec mes lèvres et ces silences mielleux, seule musique de ces cases orales où l'amour s'exerce au style de l'amour. J'ai longtemps rêvé de grimper derrière une femme inconnue dans un escalier très étroit et voulant la main collée à son X. Le temps, pour moi, ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. Je pense au temps, à la seconde éternelle, quoi. Toujours. Et à la seconde éternelle, pour la trouver, il faut se lever de bonne heure. C'est-à-dire que la seconde éternelle, c'est, ça n'en finit jamais, quoi. Ça n'en finit pas. Le temps, ça va très vite des fois quand on est bien, et ça va très lentement quand on est mal. Au fond, c'est ça. Il ne faut pas dire de bêtises. Le temps, pour moi, c'est se retourner un moment dans le lit quand on ne dort pas et se dire, qu'est-ce que je fais dans ce siècle, dans ce monde, qu'est-ce que je fais ici? J'ai 74 ans. Et qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est rien. Je crois toujours à quelque chose qui va arriver, pour moi en tout cas. Je vais partir quelque part, sans que personne ne le sache. Avec des apparitions, ça doit arriver, ça doit exister, ça. Quelqu'un qui est mort, qui vient te chercher, parce qu'il a envie de toi, il renaît avec toi. C'est possible, ça. C'est possible. Des fois, je suis touché. Alors, je me dis, qu'est-ce que c'est que... Je suis passé quelque part, j'ai l'impression qu'on m'a pris le bras, comme ça. On m'a touché. Mais c'est pas sûr, quoi. C'est bien que ça veut dire. Je dis, je me suis accroché à un buffet en passant, quoi. Ou à une chaise, je suis mal assis, quoi. Mais il y a une présence de l'autre, pour moi, qui est indispensable et qui existe et que je ne peux pas prouver. Alors le temps, c'est une comédie intéressante, affreuse, romantique et des fois généreuse. Alors la mort, c'est une femme pour moi. Une femme très belle, c'est bête de dire ça. Une femme en noir très belle, quoi. Si on me dit la mort arrive, elle est très belle, elle ouvre ma porte, elle vient pendant ses bras, quoi. Et je me trouve dans les bras de Marilyn, quoi. Qui sait? Je dis Marilyn comme un exemple. C'est une femme formidable, cette fille. Marilyn Monroe. Des fois, j'y pense. Elle a eu une fin de vie triste et qu'elle avait provoquée, ou qu'on a provoquée, parce qu'elle a sûrement été assassinée, à mon avis. Et par qui? Bon, vous le devinez. Quand je vais promener mon chien, dans la maison là-bas, je m'assois dans une petite cabane en face, je fume ma cigarette, et en fumant ma cigarette, je regarde. Et dans une glace, puisque l'on refait la maison, dans une vitre, une fenêtre, de temps en temps, je vois quelque chose qui bouge. Et de blanc. J'ai l'impression que c'est Marilyn Monroe, c'est vrai ce que je dis. Et pourquoi? Parce que je suis peut-être le seul à penser qu'elle va revenir pour quelqu'un, quoi. Et je sais pas. C'est difficile de parler de ça parce que personne ne te croit. Mais tout est possible. Et la mort, c'est une fable. Il faut la finir comme il faut. Le bonheur, ça peut durer une seconde. Ça peut durer 2 ans, ce qui est difficile. Le bonheur, ça se pique quand ça passe. Et on le prend, et puis voilà, on le met de côté si on peut. Mais moi, ce qui est important dans le bonheur, quand c'est possible, et ce n'est jamais possible, en tout cas, c'est difficile, c'est l'éternité de l'instant. Alors ça, c'est extraordinaire. Pour moi, la tromperie, ça n'existe pas, il n'y a que l'amour. Alors l'autre ne comprend pas que ça n'existe pas. Il est malheureux, il est trompé, quoi. Je trouve que la tromperie dans l'amour, ça c'est pas possible d'imaginer ça. Et pourtant, il n'y a que ça. Celui qui n'est pas aimé, qui est dans son coin tout seul pendant qu'il sait ou qu'il imagine l'autre allant faire son bonheur quelque part en se cachant, et c'est pas possible, ça. Et il est malheureux, et ça va jusqu'au crime, quoi. Et faire l'amour, c'est fantastique, quoi. Faire l'amour, c'est... ça n'est jamais sale, n'est-ce pas? Ça n'est pas cochon, comme on dit. Faire l'amour, c'est la musique, c'est tout. C'est la mer qui arrive, qui s'en va, qui arrive, qui s'en va, qui arrive, qui s'en va. Elle coule mystérieusement la rivière des amants, endormis dans leur lit blanc. C'est ça, c'est pour moi, c'est ce que j'invente, ce que j'imagine pour l'amour. Les amants qui vont mourir, mais dans les bras l'un de l'autre, et pour l'éternité, puis je finis comme ça. Le fleuve d'amants, c'est le fleuve de l'amour, mêlé à la mort, mais la mort sereine, pas glacée. La mort toute pleine de soleil, un soleil un peu noir. Et c'est le fleuve des amants anarchistes, pourquoi pas. Et si tu as l'autre dans les bras et que tu meurs dans l'autre, c'est extraordinaire. Mais il faut le sentiment, il faut que ça soit dans la tête, qu'on comprenne, qu'on sache que ça se passe comme ça. Mais si l'éternité de l'instant existe, c'est l'éternité. On ne meurt plus. Aussi. Et on vit comme des amours déchaînés et sereins. Et bien maintenant, je vous salue tous. Je vous souhaite d'avoir le bonheur dans votre poche, si vous pouvez, en tout cas dans le cœur et dans l'amour. J'allais dire dans le cul, mais on m'en voudrait d'employer ce mot-là. Et soyez heureux, et c'est difficile d'être heureux. Et c'est aussi très facile. Il faut savoir s'y mettre. Se mettre devant le bonheur et le prendre dans ses bras. Et allez donc, viens ici le bonheur, t'es à moi. Ne me quitte plus. Et le bonheur, il vous dira oui.
Une robe de cuir, comme un fuseau, qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue, un air anglais. Extra, un maudit blues qui chante la nuit.